l'espace de... Nectar, Nicolas Julliard.
Avec Fatmir Blakaï en régie, bonjour à toutes et à tous. Il a été un des cinéastes les plus cultes des années 80 et 90. Aujourd'hui, il ne fait plus de longs métrages, mais il est partout. David Lynch, 72 ans, il fait l'actualité sans relâche par ses disques, ses photographies, sa série Twin Peaks ou son œuvre graphique. Et c'est de cette dernière qu'on va parler avec vous, Florence Crivel. Bonjour.
Oui, bonjour. Deux grandes expositions à découvrir au musée Forel de Morges. On découvre une centaine de lithographies de David Lynch, magnifique. Et puis, des côtés de Sion à la Maison du Diable, eh bien là, on découvre 11 lithographies exclusivement consacrées à Fellini, puisque la Maison du Diable est le siège de la fondation Fellini, et David Lynch a fomenté ses lithographies sur ce film de 8,5, et en même temps il signe la mise en scène finalement de l'exposition de dessins de la fondation Fellini, et nous aurons donc la grande chance d'avoir en direct Nicolas Rouillet, le directeur de cette fondation, de cette Maison du Diable. Bonjour à vous déjà.
Bonjour.
Et ce sera l'occasion de décrypter justement cette œuvre lithographique au travers de deux autres regards, Yvan Schwab, le directeur de Morges, du musée Forel de Morges, et de Dominique Paigny, ancien directeur de la Cinémathèque française, qui connaît très très bien et l'œuvre cinématographique et l'œuvre lithographique de David Lynch. Donc forcément, on fera des allers-retours.
Et on va se plonger comme ça dans un instant dans cet univers graphique fascinant de David Lynch. Il y a 40 ans, jour pour jour, le 24 septembre 1978, un nouveau canton s'apprêtait à rejoindre la Confédération helvétique. Le canton du Jura était et avec lui un esprit singulier, frondeur, que célèbre aujourd'hui le film Jura, Terre promise. Son réalisateur est au bout du fil. Bonjour Claude Stadelmann.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Vous présentez ce soir au Cinémonde de Lémont ce long métrage, Jura, Terre promise. Comment décrire la nature de ce projet ?
Je crois qu'on ne peut pas décrire la nature de ce projet sans parler du collectif Plonk et Replonk, avec qui j'ai fait et fabriqué le film, et Stéphane Kahl, qui est leur associé animateur à Paris. Oui. Donc la nature de ce film, c'est une visite burlesque, une visite avec beaucoup de dérision, j'espère, et surtout dans l'esprit Replonk de cette histoire de la création du Jura qu'on a commencé nous au Bing Bang pour rire et qu'on termine avec l'adhésion éventuelle de Moutier en 2017.
Voilà, c'est ça. Il y a aussi cette actualité de 2017 de Moutier qui faisait partie alors du tournage. Alors, il y a Plonk et Replonk, il y a des archives, j'imagine aussi, oui, d'actualité. Et puis, il y a quelqu'un qu'on connaît bien ici à la RTS, Duja, qui fait partie aussi du casting de ce film.
Oui, quand on parle casting, c'est peut-être un bien grand mot, parce que ce film, si vous voulez, ne ressemble à rien. Et c'est pas prétentieux ce que je dis, mais c'est un film qui ne correspond pas du tout aux normes académiques du documentaire, ni à celui de la fiction. Il y a des petits bouts de fiction. Si vous voulez, certains l'ont appelé un ovni du cinéma. Mm-hmm. C'est trop d'honneur pour moi. Mais c'est quand même une chose très particulière, un travail très particulier. Et l'ami Duja est dans le film, évidemment, avec ses micro-trottoirs, où je lui ai demandé de passer un petit peu en Suisse romande et retenir les gens pour leur poser la question, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils voient le Jura. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là. Mais en parlant de personnages qui sont un peu les liants de ce film, il y a deux autres personnages importants qui sont la Gilberte de Courgenay, qui est notre personnage un peu endémique et très populaire de la Première Guerre mondiale à Courgenay, la serveuse qui est dans notre film et qui va faire une sorte de fil rouge durant la première partie. Et la deuxième partie, c'est un cosmonaute qu'on a appelé Cyprien, qui va débarquer dans ce Jura aujourd'hui et puis qui va regarder d'un œil amusé un peu tout ce qui se passe et surtout ce qui se passera demain avec la jeune génération.
Ce titre, Claude Stadelmann, Jura, Terre promise, est à la fois provocateur et sérieux, parce que le Jura était littéralement une terre promise pour ses habitants. 40 ans plus tard, c'est aussi l'occasion de faire un bilan de la création de ce canton. Est-ce qu'il a tenu ses promesses ?
Oui, ben alors vous faites bien, vous dites très très bien, c'est un peu provocateur et sérieux à la fois. Donc le film, c'est ça. Il est surtout provocateur, mais avec des virgules, si vous voulez, très très sérieuses, qui seront amenées par des protagonistes et des intervenants, tels Monsieur Hauser, historien, Monsieur Alain Charpillot, qui est un économiste, mais aussi militant du mouvement séparatiste, et puis Madame Elisabeth Baumschmeider, avec le concours de Monsieur Gross, qui est un politicien zurichois. mais qui habite le Jura et Saint-Ursanne depuis un certain nombre d'années. Donc, oui, on va poser la question, on va se poser la question, mais est-ce que ce 23e canton, qu'on voulait différent, est-ce qu'il est vraiment différent? Ou qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce canton? Alors, c'est ce que je voudrais essayer de susciter puis d'évoquer dans mon film.
Ce film est présenté ce soir à Delémont, en avant-première. Oui. Il est aussi produit ou coproduit, en tout cas en partie, je crois, par la RTS. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à une diffusion plus large du film, notamment sur le petit écran.
Oui, il n'est pas coproduit, il sera sans doute acheté, mais oui, il y a un intérêt de la part des RTS. Mais on peut pas dire pour le moment, non, c'est pas tout à fait. Mais oui, je pense qu'il sera visible sur les écrans de la RTS. Et puis, on va le retravailler. Quand vous dites avant-première, le terme est vraiment propre, parce que le film n'est pas complètement terminé dans sa version définitive telle qu'il paraîtra en salle dès cet hiver au mois de décembre. Il y a encore plusieurs choses à faire, donc on va présenter à nos amis et puis aux sponsors, parce que ce film a été fait, je tiens à le dire, avec de l'argent du Jura et que du Jura, avec une ou deux fondations ici et là. Mais donc le film sera présenté dans une forme un petit peu différente qui va durer 95 minutes à partir du mois de décembre.
Et on espère bien pouvoir le voir aussi en dehors du Jura. En tout cas, ce soir, c'est dans le Jura que ça se passe. C'est à Delémont, le chef-lieu du canton, ou Cinémont, pour l'avant-première de ce film Jura, Terre promise. C'est à quelle heure, Claude Stadelmann?
À 18h, il y a la projection. Puis ensuite, comme dans le Jura, on aime bien trinquer, eh bien, il y a un apéritif qui sera offert à nos invités à l'issue de la projection.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup d'avoir été quelques minutes avec nous, Claude Stadelmann, et
merci
plein succès pour ce film Jura, Terre promise. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée. Pour Delémont, c'est le titre de cette composition du Saint-Gallois Alfred Schweitzer, composée pour l'École jurassienne et conservatoire de musique de Delémont. David Lynch, le cinéaste du trouble, du mystère, de l'ambiguïté, est aussi un artiste à part entière. Peintre, dessinateur, chanteur et depuis une dizaine d'années, lithographe de talent. Preuve en est avec ses deux expositions à découvrir au Musée Forel de Morges et à la Maison du Diable à Sion, qui dévoile ses facettes lithographiques. Pour en savoir plus sur cette production à mettre en résonance ou non avec le cinéma de Lynch, on a le plaisir d'avoir en direct le directeur de la Maison du Diable, Nicolas Rouillet. Rebonjour à vous. Et on va aussi entendre Dominique Paigny, ancien directeur de la Cinémathèque française et grand spécialiste de l'œuvre de Lynch, ainsi qu'Yvan Schwab, directeur du musée Forel de Morges, qui accueille plus de 100 lithographies de Lynch. Florence Grive.
Une exposition magnifique dédiée à son œuvre lithographique en général, et à la Maison du Diable à Sion, une exposition qui présente en exclusivité 11 lithographies que Lynch a réalisées expressément autour du film 8 et demi de Fellini. Et il signe également une mise en scène de dessin du maestro, puisque la Maison du Diable accueille les archives, la fondation du grand cinéaste italien. Et ce qui est très très réjouissant, c'est que Lynch est la preuve qu'on peut être justement un cinéaste, vous l'avez dit, un peintre, un photographe, un graveur accompli. Son œuvre artistique n'est pas un hobby, c'est une recherche qui lui colle au corps et à l'âme depuis avant son cinéma, avant qu'il ne se lance dans les œuvres animées.
C'est un homme de la Renaissance, comme on
oui,
dit
absolument,
en anglais.
Ouais.
Nicolas Rouillet, les fans de Lynch ont en tête sans doute l'exceptionnelle expo de Lynch artiste présentée à la Fondation Cartier il y a un peu plus de 10 ans. Est-ce que vous l'aviez vu cette exposition?
Malheureusement pas. Non, j'avais l'ouvrage, donc j'avais vu tout ce travail-là dans ce livre.
Et est-ce que c'est alors ce livre qui vous a donné l'envie d'inviter Lynch à découvrir le travail de Fellini et de la Maison du Diable ?
Non, c'est parti sur un rêve qui est un peu le fil conducteur de toute cette aventure. Je voulais faire une exposition sur Lynch. Le musée Forel voulait faire une exposition sur les œuvres lithographiques de David Lynch. Et puis on s'est mis ensemble. Et petit à petit, mon rêve de faire quelque chose sur le cinéma s'est transformé en un hommage de Lynch à Fellini. Et donc on a un petit peu changé d'angle. Donc on expose plutôt les œuvres de Lynch et de Fellini dans ce lieu.
Alors je crois savoir que Lynch, normalement, devrait faire son apparition peut-être début novembre des côtés de la Maison du Diable à Sion, si mes sources sont bonnes. Mais ça veut dire aussi que vous l'avez rencontré, évidemment, préalablement. On a toujours envie de savoir comment c'est de rencontrer un homme pareil. Nicolas Rouillet.
Alors, c'est extraordinaire. C'est en fait magique à la fois et un peu stressant, puisque là, j'avais quelque chose à lui porter, un projet à lui soumettre, sans le lui demander, parce que c'est pas une commande de notre part. Je suis très fan de Lynch, donc j'étais assez impressionné par ce personnage. Mais ça a été une rencontre à l'atelier IDEM à Paris qui s'est très très bien déroulée. On a eu du temps pour discuter.
C'est un atelier où justement David Lynch a commencé. Enfin, c'est là, c'est son quartier général lorsqu'il fait de la lithographie.
Oui, il l'appelle son petit paradis parisien. Il vient régulièrement à cet endroit-là pour y travailler. Il y a vraiment un coin qui est pour lui. Et puis cette rencontre a duré trois quarts d'heure. On a discuté de Fellini, ses différentes rencontres. Et je savais pas comment aborder la chose, comment lui soumettre le fait qu'il pourrait faire un hommage à Fellini sans que ça paraisse vraiment d'une demande de notre part. Et on a discuté un petit peu de ce projet la première fois. On est arrivé avec un petit cadeau. On a réfléchi longtemps à ce qu'on pouvait offrir à David Lynch, lui qui reçoit plein de choses. Alors de la Suisse, il attendait des chocolats ou ce genre de choses, puisqu'on a lui apporté une sorte de grande boîte. Et puis on lui a offert un grand coffret de crayons de couleur Swiss Made 40 dash pour pas le citer, et il a adoré ça. Et d'habitude il prend pas ses cadeaux à Los Angeles, mais là il a absolument voulu que ce coffret le poursuive, et peut-être qu'il fera des dessins à partir de ça une fois, on espère.
Peut-être qu'on on revient un instant non pas dans les couleurs, mais dans le noir lithographique de David Lynch, parce que lorsqu'on cherche justement les traces du cinéma dans ses œuvres, on pense évidemment au noir lithographique et au noir et blanc, par exemple d'Elephant Man, ou encore à ce noir qui absorbe le personnage de Lost Highway. On pense à l'idée aussi de la duplication lorsqu'on fait ce parallèle cinéma et lithographie. Parce que c'est vrai que dans le cinéma de Lynch, il y a souvent l'idée du double. Dans les lithographies, on fait plusieurs tirages d'un même dessin, donc on décuple comme ça l'idée de duplication. Et puis au fil de l'exposition, celle que l'on rencontre par exemple au musée Forel de Morges, l'œuvre lithographique se distingue de plus en plus de l'esthétique, qu'on pourrait dire opérienne, hein, que l'on retrouve souvent dans le cinéma de Lynch.
Donc William Hopper. Edward Hopper.
Edward Hopper, voilà, exactement.
Non, juste pour préciser.
Oui, absolument, opérien, oui, c'est vrai.
Edward Hopper, le peintre.
Le peintre américain.
De ces bars silencieux.
Exactement, de cette lumière oblique, ouais, de fin du jour, ouais, etc. Et là, on est vraiment clairement du côté de la lithographie, du côté d'un certain expressionnisme contemporain. Et puis alors, peu à peu, c'est ça aussi qui est formidable, on se laisse aller et entrer dans le monde tout en tension de l'artiste, en feu, clowns diaboliques, scènes érotiques, et j'en passe.
Et vous disiez, Florence, que Lynch découvre la lithographie en 2007 lors de cette grande exposition parisienne qu'on a évoquée.
Oui, alors c'est effectivement grâce à Patrice Forest, celui qui pilote ce légendaire atelier IDEM que vous nous racontiez tout à l'heure, Nicolas Rouillet, qui se situe à Paris. Et c'est un atelier mythique qui a accueilli tant et tant de grands artistes avant Lynch, comme Picasso, Braque, Matisse, Calder. Alors pour en savoir plus, je vous propose de nous glisser dans une des salles du musée Forel à Morges. Son directeur, Yvan Schwab, fait office de guide.
« Alors, le David Lynch lithographe, je pense qu'il est dans la continuité du David Lynch artiste-peintre, c'est-à-dire vraiment sa formation initiale à l'École des Beaux-Arts à Philadelphie, quand il était étudiant, et même avant, hein, puisque déjà adolescent, il s'est rendu compte, grâce à un ami de son père, que la création artistique, le dessin, la peinture, pouvait être une activité principale. Et ça, je pense que c'est fondamental de bien le comprendre, que c'est pas du tout un à côté d'un réalisateur qui s'amuse à dessiner.
C'est pas un hobby, quoi.
C'est pas un hobby. Ouais. En fait, on découvre vraiment la dimension d'un David Lynch pluridisciplinaire, puisqu'il fait aussi de la musique, là, bien sûr, on parle de lithographie, il fait du dessin, il fait de la photographie. Puis je pense que c'est important, cette notion d'artiste pluridisciplinaire, parce qu'ici en Europe, ou en tout cas dans une tradition française, on comprend pas toujours. On dit, voilà, on doit faire que de l'écriture ou que de la peinture ou que du cinéma, puis après, c'est des à côté. Mais non, là, c'est une vision beaucoup plus complète. Alors, pour répondre quand même directement à votre question, le lien avec le cinéma, c'est vrai qu'au début, on cherche le cinéma dans la lithographie, ce qu'il faut bien évidemment pas faire, c'est pas le même médium, ça n'a rien à voir. En tout cas, bien évidemment, la technique. Par contre, dans le processus créatif, c'est-à-dire cette manière de nous donner à la fois des choses très précises, ce qu'on a dans les films, mais en même temps de les envelopper dans une étrangeté, dans des points d'interrogation, aussi dans l'horreur, mais aussi dans l'humour avec une forme de cynisme, là, on va retrouver quelque chose qui est vraiment dans le fond, je dirais, artistique de David Lynch.
Là, ce qu'on voit là devant nous, cette espèce de personnage qui étrangle un nu. Là, on est dans le cynisme, on est dans une sorte de cauchemar rieur quand même un peu. On rit un peu.
Il y a quelque chose dans ces personnages, des bouffons au sens clown, qui peuvent être très méchants. Puis une méchanceté qui peut parfois nous faire sourire. On ne sait jamais, hein, dans les clowns, si on part dans le rire ou si on part au contraire dans l'horreur, la peur. Et alors, il y a plusieurs de ces personnages qui sont en fait des personnages, notamment un personnage qui s'appelle Billy, qui est un personnage grotesque, qui est bête, je dirais presque que c'est Trump avant que Trump existe.
Alors là, on bascule dans un ailleurs, et cet ailleurs, c'est pas des paysages avec des clowns qui étranglent des femmes, c'est la ville, mais qui est assez, comment dirais-je, c'est épais, hein, je veux dire, comme sensation de ville.
Oui, alors, bon, cette ville très noire que permet précisément l'encre lithographique, c'est sans doute des réminiscences de Philadelphie, parce que quand il était étudiant à Philadelphie, c'était déjà une ville sur le déclin, mais en même temps, on sait à quel point il aime aussi, hein, le côté ancienne usine, il y a aussi une poétique. Je crois, quand on dit que c'est noir, il ne faut pas dire on va ressortir complètement déprimé, il y a aussi une force dans ce noir, il y a aussi une force dans ces villes balayées par ces tempêtes, et c'est là aussi la force de la lithographie.
Il y a aussi une chose que l'on remarque, un fil rouge, c'est sa graphie, c'est-à-dire qu'il y a souvent des mots et des titres et des phrases qui viennent se coller à ces paysages.
Oui, alors ça, c'est vraiment une systématique. Hein. Quel que soit du reste la technique, aussi dans les gravures sur bois qu'on présente ici, il y a un mot, un titre ou une phrase. Et ça, alors ça correspond vraiment à son processus créatif. Il le dit, j'ai une petite histoire dans ma tête. Ça peut être vraiment un petit événement, un petit incident, une présence. Et c'est le titre. Et puis ensuite, on entre dans l'image, qui peut se lire effectivement comme un petit poème, comme un haïku, ou bien comme eu un fragment de storyboard. Après, à chacun peut avoir sa lecture, bien évidemment.
Ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est la présence du corps, parce qu'en fait, le corps de Lynch sur la pierre lithographique, j'ai l'impression qu'on voit ses mains sont très présentes en fait dans la gravure, la litho.
Oui, alors il y a beaucoup de lithographies où il travaille directement avec les doigts. Et donc, il y a effectivement l'empreinte, on le voit bien, des doigts, des mains. Enfin, je ne peux pas dire qu'on le voit bien. On le devine en observant. Mais effectivement, ce rapport entre la peau de la pierre et la peau de la main de Lynch, alors elle est tout à fait présente.
C'est vraiment une empreinte.
Tout à fait, oui.
Est-ce qu'on sait comment il procède? Si c'est d'abord l'idée qui vient, si c'est ses doigts qui commencent à...
Alors, il n'y a pas de croquis préparatoire. Il y va direct. Les seules œuvres où il y a eu des croquis croquis préparatoire, c'est ce qu'on trouve dans la suite parisienne. Là, il avait travaillé sur des post-it, et les post-it étaient vraiment l'origine de cette série de 12 incographies. C'est encore une autre technique. Mais après, ce qui lui plaît justement, c'est ce côté tout à fait direct de travailler sur la pierre lithographique avec cette petite idée qu'il a dans la tête, puis ensuite il dessine. Il y va.
On a entendu à votre micro Florence Crivel, Yvan Schwab, le directeur du musée Forel de Morges, à propos de cette exposition des lithographies de David Lynch. En l'écoutant, Nicolas Rouillet, j'ai pensé à Fellini, bien sûr, quand on évoquait les bouffons, les clowns qui peuplent cet univers lithographique de Lynch. J'imagine que là, il a senti aussi chez Fellini une parenté particulière.
Oui, effectivement, il y a des liens qui peuvent se construire là autour. Ce que je veux dire, c'est entre Fellini et Lynch, on peut comparer beaucoup de choses, mais c'est des artistes complets. Puis plus on avance dans l'œuvre, plus on se dit, il faut pas les comparer. Il faut les mettre l'un à côté de l'autre, les honorer, aimer ce qu'ils font. Mais finalement, ils se retrouvent effectivement sur certains personnages, sur le goût pour le rêve, qui est très différent chez l'un et l'autre. Le goût des personnages un peu biscornus chez Fellini, ça peut être des clowns, ça peut être des gens un peu bossus. On sait que Fellini adorait les castings, cherchait des personnages vraiment un peu bizarres dans Rome. Et Lynch a aussi ce genre de marotte d'aller chercher des gens qui sont pas forcément dans la normalité ou acceptés par la société telle qu'elle.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que Yvan Schwab parle de la liberté d'expression de Lynch, comme ça qu'il peut aller carrément sur la peau de cette pierre lithographique et il y va, boum, bim, bam, boum. Je me demande, pour le travail que vous l'avez demandé, entre guillemets, hein, parce que c'est lui qui a décidé finalement de faire quelque chose autour de Fellini, qu'en est-il lorsque Lynch, justement, travaille sur un thème comme 8,5 de Fellini? Du coup, cette espèce de spontanéité, est-ce qu'elle est gommée par quelque chose de plus construit, de plus étudié?
Effectivement, les lithographies faites en hommage à Fellini sont plus réalistes, entre guillemets. Elles ont quelque chose de plus fidèle à l'œuvre de Fellini. C'est un hommage, il y a une sorte de respect. Maintenant, c'est le secret aussi de l'artiste, de sa façon de procéder. Je ne sais pas exactement comment il a réalisé ses œuvres. Est-ce que c'est à partir de photogrammes? Est-ce que c'est en revoyant cette scène? Est-ce que c'est vraiment... Il le dit que c'est sorti comme ça, qu'il a eu cette idée à un moment donné de travailler cette fin de film de 8,5. Il a été obsédé par cet échafaudage qu'on voit un peu dans ses lithographies et qu'on voit beaucoup à la fin du film.
Juste pour dire, 8,5, c'est l'histoire d'un cinéaste qui est un petit peu c'est une sorte de mise en abîme du cinéma. C'est un cinéaste qui, comment dirais-je, est dans une sorte de perte de confiance et tout à coup il n'arrive pas à créer son nouveau film. Il se met un petit peu hors de ce monde du cinéma et viennent le visiter tous les fantômes de son enfance.
Voilà, exactement. Il a perdu son inspiration et tout le monde lui demande un film, les producteurs, tout le monde le pourchasse. Il a des problèmes au niveau de sa famille, un problème avec sa femme, sa maîtresse, etc. Et tout le film et cette pérégrination de Mastroianni, qui est le double de Fellini dans ce film. Et à la fin du film raconte vraiment quelque chose, une sorte d'espoir, en fait, de renouveau. Il a de nouveau son porte-voix, il a de nouveau tous ses personnages autour de lui, et le réalisateur va pouvoir faire son film. Et c'est la fin du film de 8,5, et pour le spectateur, on sent qu'il y a une inspiration qui va venir. Par contre, chez Lynch, moi, dans ses lithographies, ce fait de... C'est un peu plus noir, un peu plus figé, forcément, dans le fait de faire ça en lithographie. Et il y a une sorte d'idée que ce spectacle félinien est terminé. Il y a quelque chose d'un peu plus sombre. Et on a l'impression qu'il y a presque un côté un peu nostalgique de la part de Lynch en mémoire de Fellini, en disant que voilà, ce genre de cinéma n'est plus possible.
Alors, on va peut-être écouter ce que dit Dominique Paini, ancien directeur de la Cinémathèque française, et qui signe d'ailleurs à une interview exclusive pour le catalogue de l'exposition à la Maison du Diable de Sion. Dominique Paini, donc, qui va nous aiguiller sur ce rapport, cet engouement de Lynch pour Fellini.
Fellini, qui est un cinéaste qui s'est beaucoup qui a penché, si je puis dire, mais il a beaucoup réfléchi sur la reproduction aussi. D'abord, c'est un homme qui aime le spectacle vivant, Fellini, qui aime le cirque, qui aime le théâtre, qui aime le spectacle. Le spectacle qui ne se reproduit pas, précisément. C'est, vous avez dans les clowns, ou dans Luce de la Varietà, ou dans Ginger et Fred, mm-hmm. et, ou Prova d'Orchestra, ce sont des films qui réfléchissent beaucoup à la reproduction, hein, à l'éphémère que constitue un spectacle vivant, comme on dit. Mais le 8,5 est précisément le film qui réfléchit au cinéma. Donc, on pourrait reprendre la belle formule de Bazin, qu'est-ce que le cinéma, c'est si simple, si évidente, qu'est-ce que le cinéma, 8,5 c'est le qu'est-ce que le cinéma, selon Fellini, et David s'est bien évidemment attaché à ce film-là, et en particulier l'ultime séquence, qui est une sorte de synthèse résumée absolue de tout le film, où le personnage connaît une mélancolie profonde du geste accompli. Ce qui n'est pas le cas du spectacle, parce que du spectacle théâtral ou de la danse, mm-hmm. parce que il y a l'angoisse de la grande réussite qui ne sera pas répétée, sans doute, pour un spectacle, une séance, mais il y a la possibilité, on peut répéter à l'envi des représentations théâtrales ou chorégraphiques. Pas le film. Le film, la prise, il y a la bonne prise. Ouais. On peut en faire plusieurs prises, mais ensuite il y a la prise qu'on considère comme la bonne, comme on dit. Mais 15 ans plus tard, lorsque le film est revu par des générations différentes, par le cinéaste lui-même, combien de cinéastes ne se disent-ils pas que ce n'était pas la bonne prise au fond, hein. Mais c'est fini, c'est fait. Donc cette question interroge beaucoup les artistes, hein. Quand une œuvre est-elle achevée, quand n'est-elle pas achevée, quel moment lui tourne-t-on le dos, à quel moment on peut-on considérer que la prise est bonne, que le geste est bon, et ensuite quel temps faudra-t-il pour que éventuellement la bonne prise soit affirmée ou confirmée, puisqu'on sait bien que certains films de Fellini ou certains films de David Lynch aujourd'hui, avec le temps, sont revus autrement, si je puis dire, comme en tout cas on les avait pas vus lors de leur apparition. Donc ce qui veut bien dire qu'il leur faut du temps aux œuvres aussi, hein. Donc c'est à tout ça évidemment que David Lynch réfléchit en faisant des lithographies. C'est moins coûteux qu'un film.
On a entendu Dominique Paigny, ancien directeur de la Cinémathèque française et spécialiste de David Lynch, au bout du fil, Florence Crivel. Dominique Paigny qui parlait du côté plus meilleur marché, en réalité, de la lithographie, ça c'est un aspect. Mais il y avait une chose intéressante aussi dans ce qu'il disait, c'est cette idée de la possibilité de refaire. Et pour un cinéaste, c'est évidemment une question qui se pose de plus en plus. On voit de plus en plus de cinéastes faire des remakes de films. Je pense à Scorsese, par exemple, qui avait refait des grands classiques du cinéma. David Lynch ne fait pas un remake à proprement parler de Fellini, mais c'est quand même assez particulier, j'imagine, pour lui, de s'inspirer du travail d'un de ses pères, si l'on veut, Fellini, pour créer une œuvre dans un autre domaine.
C'est effectivement pas particulier, dans le sens qu'il a... Dans un premier temps, la première rencontre, il était un peu réticent de s'attaquer à un maître ou d'aller fouiller dans Fellini, quelque chose qu'il n'avait pas forcément envie de toucher, parce que c'est quelque chose qui est revenu régulièrement, hein, de l'Italie, des demandes de faire quelque chose autour de Fellini, parce que tout le monde sait que c'est quelqu'un qui l'a vu à plusieurs reprises juste avant sa mort. Il y a cette histoire de cette rencontre un peu mystérieuse entre les deux.
Il va le voir sur son lit de mort, pratiquement.
Quasiment, oui. Ouais. Et ils discutent ensemble, principalement apparemment de cinéma. Et le lendemain ou le surlendemain, Fellini tombe dans un coma et il reviendra plus. Donc ça a laissé une trace chez Lynch. Et dans un premier temps, il voulait pas trop s'attaquer à ça. Il avait une sorte de, J'ai trouvé ça un peu impressionnant ou voilà. Et alors de toute façon, ça devait pas être dans le même média, ça devait pas être dans le cinéma. Il voulait faire des aquarelles au départ, faire des choses un peu du dessin pur. Et puis finalement, il a fait les lithographies pour le noir et blanc de 8,5 pour ce côté-là. Et je crois que c'est son œuvre, c'est son choix. Et d'une fois qu'on prend quelques images d'un film, qu'on les sort de son contexte, on est déjà dans l'interprétation, on est déjà dans une œuvre personnelle. Donc on est chez Lynch, qui fait un hommage à Fellini, mais on est chez Lynch. Mmh.
C'est ça qui est intéressant aussi. Vous le disiez tout à l'heure, voilà, Fellini et Lynch ont ce point commun, entre autres, du rêve, peut-être plus cauchemardesque chez Lynch que chez Fellini. C'est intéressant aussi de se rendre compte que Lynch n'a pas produit de nouveaux grands films depuis pratiquement une dizaine d'années, où il est dans la musique, où il est dans le processus lithographique. Et puis, il y a Twin Peaks, le retour, qui sort l'année dernière. Est-ce qu'il y a des liens que vous pourriez faire, Nicolas Rouillet, entre cette gestation production artistique et le glissement de nouveau vers la série?
Alors, c'est assez compliqué parce que, effectivement, vous parliez du rêve. Je vous ai dit, c'est pas le même chez Fellini que chez Lynch. Chez Fellini, on est plutôt dans le côté
échappatoire.
Tout d'un coup, ça permet à un personnage de montrer un autre aspect de sa psychologie. Et puis finalement, ça amuse le spectateur. Chez Lynch, c'est vraiment présent dans chaque image. On sait parfois pas si on est dans le rêve ou la réalité. Et Lynch disait depuis 2006, effectivement, il n'a pas fait de film depuis Inland Empire. Et il dit qu'il n'a pas eu d'idée aussi de film. C'est plutôt par rapport à ça. Est-ce qu'il a des producteurs qui le suivent moins? Parce que c'est quand même un échec commercial aussi. Enfin, il y a un aspect commercial dans le cinéma qui est très important, qui est moins important dans son art actuel. Et il est revenu à la série. Il y a eu cette demande aussi du public, ses fans, qui voulaient que la phrase de la fin de la saison 2, nous nous reverrons dans 25 ans, soit exaucée. Et finalement, il l'a fait avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'il y a aussi une motivation aujourd'hui de revenir au film. Il y a bien sûr quelque chose là autour. Il dit qu'il a quelque chose peut-être à faire, mais voilà, il faut que ça vienne, il faut qu'il y ait une idée qui sorte. Il y a un processus assez précis pour ça, et on espère voir un long métrage bientôt.
Merci beaucoup, Nicolas Rouillet. Je rappelle que cet hommage de Lynch à Fellini se déroule à la Maison du Diable à Sion jusqu'au 16 décembre, tout comme la grande expo dédiée à la lithographie et aux gravures du cinéaste au musée Forel de Morges. Et puis vous êtes venu ici avec le catalogue de l'exposition en deux versions, parce qu'il y a un catalogue tout public, dirons-nous, Dreams, A Tribute to Fellini, et puis là, un coffret que vous avez ici, qui est une édition particulière.
Alors, bel objet.
Voilà,
très bel objet.
Une édition limitée, il en reste encore quelques exemplaires. C'est une lithographie spéciale qui n'est pas dans l'exposition, qui est faite pour le coffret où il y a le catalogue d'exposition avec une préface de Thierry Frémaux, l'entretien avec Dominique Pagny et une reproduction aussi d'un dessin de Fellini choisi par David Lynch.
Et puis je note encore que jusqu'au 15 octobre, pour les fans du cinéma justement de David Lynch, la Cinémathèque suisse consacre une rétrospective à Lynch. Donc c'est l'occasion d'aller voir, revoir, revoir tous ces films énigmatiques et cultes.
Et on ne s'en lasse pas. Merci beaucoup, Nicolas Rouillet, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci, Florence.
Avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt dans Nectar. On reste dans l'univers musical, cette fois-ci, de David Lynch, dans la seconde partie de l'émission jusqu'à 13h. Restez avec nous.
Y a-t-il accointance entre musique classique et métal? Voilà une interrogation qui ne manque pas d'audace. Jeudi à 17h, Magnetic vous propose une rencontre de spécialistes qui échangeront sur ce qui unit ou distingue ces deux genres musicaux.
The night, whoa, whoa, whoa. Softer than satin was. was the light from the stars. She wore blue velvet,
whoa, whoa.
Bluer than velvet were her eyes,
whoa, whoa, whoa.
Warmer than May her tender sighs. Love was all was the glow of blue velvet.
Whoa, whoa.
But in my heart there'll always be,
whoa, whoa, whoa.
Precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet. And warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears. On
parlait avec notre invité Nicolas Rouillet de la façon dont les films naissent dans l'esprit de Lynch et de façon assez particulière. Eh bien, on en a un exemple ici avec cette chanson Blue Velvet de Bobby Vinton, une chanson des années 60 qui a tourné comme ça un peu dans la tête de Lynch pendant de nombreuses années avant qu'il l'écoute sérieusement et que tout d'un coup, tout le film Blue Velvet lui apparaisse. C'est comme ça en tout cas qu'il raconte la naissance de ce film de 1985. C'est le début Blue Velvet de la collaboration précieuse entre le musicien Angelo Badalamenti et David Lynch. Badalamenti, c'est ce compositeur formé à la Manhattan School of Music dans les années 60. Ensuite, il a accompagné de nombreux chanteurs de variété, écrit des musiques sous différents pseudonymes. Et quand il rencontre Lynch, il commence à développer un mélange de néo-romantisme et de jazz sombre, particulièrement mis en valeur dans Twin Peaks, la série, puis le film. Et à la même époque, Lynch et Badalamenti travaillent sur un album commun, un disque qui ne verra pas le jour et dont certaines pistes seront utilisées ailleurs, dans le film Twin Peaks notamment. Ce disque, créé sous le nom de Thought Gang, le gang de la pensée, sera finalement publié le 2 novembre prochain. Encore une actu pour Lynch, et voici un premier extrait de cet album inédit donc.
Walking fast, and they disappeared finally into some tall grass. Pete couldn't see where they went or what they were after. It was a gray, muggy day with some rain. A light wind was blowing. Pete saw the girl next door take off her clothes last night and walk through her house nude. She went into a back room and Pete waited for her to come out, but she never did. Pete saw two children of the earth come out of the ground after that. A cat killed one of them and played with the other until one of its legs came off. The moon was half full. Someone was in Pete's yard last night. Pete heard the person walk past his window and into the bushes, then out of the yard again. Pete couldn't see them because the lights were on in his house. At the diner, he heard a man say that the doctors had cut him down his neck and into his chest. They lifted his flesh away and parted his ribs and scraped his arteries. A gray man with big ears lit a big cigar. Smoke drifted over Pete's apple pie. The men at the other table were very pale and were drinking Bloody Marys. Nothing is moving in Pete's backyard. He hears distant traffic and the electric clock is grinding gears near him. Several woodcutters from fiery ships are coming in his door. They are dressed in wool and are opening his drawers and his refrigerator. One of them runs his hand up and down Pete's walls, stopping now and then and laughing. They have discovered Pete and have him by the arms, and Pete's going with them out under the orange tree. They keep hitting Pete's knees with their smoking pipes. The sun is coming out and a bird hops in the bushes. The woodcutters are digging a hole. Pete is upset about things. His brain is sorting out information gleaned from this confusing life. Things aren't making sense. For instance, why is that boy bleeding from the mouth? Everything is moving except where it is perfectly still. Pete's curtains open and close. Smoke fills his room. Blood shoots from the cracks. The appliances roar. Wind blows things. Hurricanes through his lungs and the roots come out. Woodcutters are everywhere now, moving quickly, loading Pete into their craft. The dogs howl in the night and blood rain fills the streets. Babies float and hit. Stars shoot and burst and blue lightning breaks a rotted gut of heads. Swirls of flying ants are in Pete's room now, kicking his shoes across the room as a fiery ship roars. From the fiery ship, Pete sees the girl now as she falls. The first bump, then the second. Maintenance men employed by the city cleaned her kitchen, but it took 2 days. Pete and the woodcutters were 5 trillion miles away by then. Yes. Pete learned to enjoy the woodcutters and their particular brand of humor.
Voilà, vous aurez reconnu peut-être cet univers comme ça étrange de David Lynch dans ce récit. Et puis la musique, cette espèce de jazz noir d'Angelo Badalamenti. C'est Thought Gang, un disque à paraître le 2 novembre prochain, une édition, la première édition de ces compositions créées dans les années 90, début des années 90 par ces deux grands complices. Le style musical d'Angelo Badalamenti, c'est ce jazz noir, mais c'est aussi un style néo-romantique qui devient sa marque de fabrique et qui semble s'inspirer des adagios de Bruckner par exemple. Impossible d'entendre celui qu'on écoute ici, celui de la 7e symphonie, sans penser à l'influence qu'a eu le compositeur allemand sur le complice de David Lynch. Écoutez. Un extrait de cet adagio de la 7e symphonie de Bruckner, l'orchestre de la NDR dirigé par Günther Wand. Un extrait parce que le mouvement dure plus de 20 minutes et malheureusement notre émission se termine dans quelques minutes. Juste le temps de vous faire écouter encore un autre aspect de l'univers de David Lynch. On l'a dit, il y a des personnages très étranges, des freaks dans le monde de David Lynch, des personnages difformes, des ovnis, comme par exemple Jimmy Scott, ce chanteur de jazz dont la croissance fut interrompue et dont la voix est restée d'un genre indéterminé. On le rencontre dans Twin Peaks, Fire Walk With Me, avec cette chanson.
Under the sycamore tree, the dark trees that blow, baby, in the dark trees that blow, and I'll see you, and you'll see me, and I'll see you in the branches that blow, in the breeze. I'll see you in the tree. I'll see you in the tree. Under the sycamore tree.
Scott, pour terminer cette émission, merci à Fatmir Blakaï pour la réalisation. Merci à Eva Colomb, notre attachée de production. Demain dans